J'invite pendant quelques semaines à méditer sur un thème que j'ai intitulé « Quelques qualités bibliques ». Il y a une différence entre le fruit de l'esprit et les qualités. Ce matin, il y a une grâce où chacun ce matin a senti quelque chose se déposer sur son cœur, n'est-ce pas? Comme on l'a chanté, nous sommes des vases et le principe même d'un vase, c'est qu'il soit rempli, qu'on le remplisse. Et ça, c'est ce que fait le Saint-Esprit le jour où nous lui donnons notre cœur, il nous transforme, il retire tout ce qu'on avait accumulé de misérable, de fou, d'insensé. Il nous retire tout ça, il nous pardonne, il nous sanctifie et il nous donne de son esprit. C'est par ce remplissement du Saint-Esprit que nous naissons de nouveau, que nous sommes quelqu'un d'autre. Parce que les mauvais sentiments sont retirés, il met les siens là où il y avait une mauvaise perception, il nous met une nouvelle vision et c'est ainsi qu'on devient une nouvelle créature. Ce n'est pas en changeant seulement des façons de vivre, mais c'est la transformation du cœur qui fait que nous changeons nos habitudes. Et c'est ça, en cela que l'on voit l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un quand il y a ce changement, cet épanouissement. Toutefois, on peut constater que dans la vie de quelques chrétiens, il y a le temps de la rencontre, moment fort de la conversion, moment fort de la transformation. Et il y aurait comme une sorte de routine qui s'installerait, une sorte de stagnation. On a l'impression qu'on a beaucoup progressé au début de ma conversion. Et puis les années passent et on a l'impression un peu de stagner. On a l'impression de moins vivre des choses, on a l'impression de plus avancer, on a l'impression de ne pas grandir. On ne fait pas d'expérience, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, comme quelque chose qui n'est pas achevé. La Bible ne nous invite pas seulement à connaître le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là viennent de quoi ? Est-ce qu'elles viennent de vous ? Non. Elles sont le fruit, c'est-à-dire le produit de notre relation avec Dieu. Si nous voulons grandir dans le fruit de l'esprit, ce n'est pas en forçant, ce n'est pas en poussant, ce n'est pas en se canalisant, mais c'est en restant dans la communion avec Dieu. Amen. Plus nous aurons personnellement une relation intime avec Dieu, plus nous connaîtrons le secret de cette intimité, plus nous connaîtrons ces moments de cœur à cœur, plus nous laisserons le Saint-Esprit se déposer et déposer des choses sur notre cœur. Et là, le fruit est mûr. Personne ne peut dire au bout de maintenant je veux la paix, maintenant je veux la joie. C'est pas possible. C'est le contact avec Dieu, avec son esprit qui fait grandir cette paix, cette joie, cette profondeur, cette maturité. Toutefois, il y a cette structure et il y a les qualités. Je vais prendre une autre image. Nous sommes allés au Gabon, ok. Et il y a une chose qui est interpellante en ce moment, là. Le Gabon est en une phase politique, économique, sociale, en transition, qu'ils appellent l'émergence, tout un programme. Et la caractéristique en ce moment, peut-être d'ailleurs aussi, je ne sais pas, c'est que quand vous allez là-bas, vous avez l'impression que tout est en construction. Tout. Toutes les maisons sont en construction, les immeubles sont en construction, toutes les routes sont en construction, c'est un chantier partout. Et ça construit. Mais en phase de construction, c'est-à-dire que vous ne voyez que les adlots, les murs, les structures, les poteaux, mais c'est encore inhabitable. Le Seigneur, quand il nous donne de son esprit, il nous donne la structure. Il nous donne sa paix, il nous donne la force, il nous donne l'autorité, il nous donne la capacité, il est la source. On sait que c'est en lui que nous avons tout. Il est véritablement ce sur quoi nous pouvons continuer à bâtir notre vie. Mais ça ne suffit pas. Je pense que vous avez tous des portes dans vos maisons, des fenêtres, des cloisons, l'eau, quelques équipements sanitaires, n'est-ce pas? C'est un peu plus confortable à vivre. Imaginez que vous viviez dans un endroit où il n'y a que les structures, que les poteaux, les murs de structure et les poteaux, c'est tout. C'est pas vivable. Il y a bien l'essentiel, on va dire, mais n'empêche que tout le reste est indispensable aussi. Et la Bible nous invite à avoir le fruit de l'esprit, mais ne pas nous arrêter seulement au fruit, mais également à rechercher les qualités bibliques. Alors on va voir ça un peu plus explicitement la semaine prochaine. Ce matin, je voudrais juste retenir, aborder une des qualités. Et vous allez vous apercevoir que, bon, je peux les énumérer si vous voulez, hein. Il nous est parlé, par exemple, il y a une liste en 2 Pierre chapitre 1 verset 5, vous le lirez à la maison, on reviendra dessus à partir de la semaine prochaine, je pense, ou celle d'après, qu'importe. Et il nous est dit qu'il faut faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, à la maîtrise autre chose, à la maîtrise, à la vertu autre chose, à la maîtrise de soi autre chose, je ne les ai pas en tête, mais il y a là toute une succession de choses où l'apôtre nous dit qu'il faut faire des efforts pour ajouter telle qualité à une autre qualité. Rien à voir avec le fruit de l'esprit. C'est pour ça que je marque une différence, parce que le fruit de l'esprit, nous, on ne peut pas se forcer à l'avoir. Par contre, la parole de Dieu nous invite à nous forcer, à nous efforcer à joindre à cette base des qualités. Et c'est comme ça qu'il y a tant temps dans la vie de certains chrétiens une sorte de stagnation, parce qu'ils en sont restés au fruit de l'esprit, qui est une chose indispensable. C'est le témoignage de Christ en vous. Mais nous ne sommes pas appelés juste à une structure, une carcasse. Nous sommes appelés, et là il y a un autre terme qui revient dans la Bible et qui tant temps peut troubler, nous sommes appelés à devenir parfaits. Ah. Est-ce que quelqu'un est arrivé à la perfection ici? Bien sûr que non. Mais en fait, dans le sens du mot parfait dans la Bible ne veut pas dire qu'on est à 100% au top. Non, c'est pas du tout ça. La notion de parfait, c'est quelque chose qui accomplit, qui est complète. Vos maisons sont parfaites. Je sais que vous n'habitez pas des châteaux, mais elles sont complètes au sens où vous avez la structure, vous avez les fenêtres, vous avez elles sont habitables, ok? Tout est dedans, il y a tout dedans. Elles sont parfaites, elles sont accomplies, elles sont finies, vos maisons. Je ne vais pas aller encore chez tout le monde, mais je crois que chez tout le monde, il y a des toilettes. Chez tout le monde, il y a des cloisons, il y a de l'électricité. Je ne suis pas arrivé dans une maison, « Ah, salut Benoît, tu vois, la moitié de la maison est construite. » Non, elle est parfaite, votre maison, au sens qu'elle est accomplie. Et le Seigneur nous invite, non pas seulement nous arrêter aux structures, mais il nous appelait à tendre à la perfection. Donc nous ne sommes pas seulement appelés à dire « Seigneur, je veux recevoir, je veux recevoir, je veux recevoir. » Il va donner, dans la mesure où nous restons avec lui. Mais il nous appelle à faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu et tant d'autres choses. Ce matin, ce n'est pas ce texte-là avec lequel je voudrais introduire l'ensemble de la réflexion. Ce serait plutôt un texte qui se trouve dans Proverbes chapitre 8. Et vous allez vous-même vous apercevoir que la société dans laquelle nous sommes, peut-être même notre manière de prêcher en tant que prédicateur moderne, parce qu'on est forcément influencé, peut-être qu'il y a des dimensions, des aspects justement de qualité que nous sommes en train de négliger. On va évoquer ce matin la sagesse. Mais la parole de Dieu nous invite à grandir dans la connaissance. Elle nous invite à grandir dans l'intégrité, elle nous invite à grandir dans la persévérance, dans la piété. Voilà des mots que de plus en plus désuets, on les emploie de moins en moins. Et pourtant, alors évidemment, le proverbe chapitre 8 est particulier, c'est une personnification de la sagesse. On va lire juste à partir du verset 32. Où il est écrit « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. » Donc, c'est la sagesse qui parle. « Écoutez-moi et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage et ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille une fois par semaine à mes portes, qui veille chaque jour. » Vous voyez là, l'effort qu'il faut fournir. « Et qui en garde les poteaux. Car celui qui me... » Vous avez quoi comme mot ?« Dites-moi, pour trouver, il faut
chercher.
On est d'accord. Donc, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pèche contre moi nuit à sa propre âme. Tous ceux qui me haïssent, qui me rejettent, aiment la mort. La sagesse. Est-ce que nous cherchons la sagesse? C'est déjà une première question. Est-ce que dans nos habitudes spirituelles, dans notre attitude, dans notre piété, dans notre façon de vivre, dans nos réflexions, dans nos manières d'appréhender les choses, est-ce que je me dis où est la sagesse? En quoi est-ce que je peux travailler pour que je sois reconnu comme sage? Pour que je sois sage? C'est une qualité, la sagesse. C'est pas seulement le Seigneur qui va déposer la sagesse et puis non. On s'aperçoit que c'est un travail, c'est une recherche. C'est un examen. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Est-ce que nous cherchons la sagesse? Je pense que nous sommes tous des hommes et des femmes responsables. Quand je dis est-ce que nous cherchons la sagesse, bien sûr on réfléchit aux choses, on réfléchit à la vie. On réfléchit à la manière dont on gère notre argent, dont on gère le travail, dont on gère nos relations. Bien sûr qu'on réfléchit. Et c'est avec sagesse qu'on essaye d'imaginer l'avenir de nos enfants, notre retraite, etc. N'est-ce pas? Donc, on cherche la sagesse. À cette question-là, est-ce que nous cherchons la sagesse? En fait, oui, indirectement. Mais est-ce que nous cherchons la sagesse de Dieu? Car il y a deux sagesses. Ça, on peut le lire ensemble, par contre, Jacques chapitre 3. Parce que de ce texte-là, nous allons tirer plusieurs pensées. Et ce texte-là nous montre bien qu'il y a deux sagesses. Une sagesse d'en bas, humaine, intellectuelle, et une sagesse d'en haut. Et notre question, c'est de savoir, mais quand je suis sage, quand je réfléchis aux choses, quand je médite, quand je veux me projeter, quand je veux bâtir, quand je veux être raisonnable, quelle sagesse m'inspire? Jacques chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, d'inspiration diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit, on retrouve le fruit, là, les conséquences de cette sagesse, c'est la justice qui est semée dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Quelle sagesse recherchons-nous? Il y a cette sagesse terrestre, en rapport avec ce monde, et disons-le tout de suite, c'est Paul qui dit ça en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18, il dit que la sagesse de ce monde, elle est folie aux yeux de Dieu. Il dit aussi que la sagesse de Dieu, elle est folie pour ceux du monde. Elle est folie. C'est-à-dire qu'on va aborder là des points pratiques qui, si vous en discutez avec les gens du monde, vont dire « mais t'es complètement à côté de la plaque, mon pote ». T'as rien compris à la vie, toi. Remets les pieds sur terre. Donc, dans quel monde tu vis? C'est ça. La sagesse terrestre, elle peut paraître très intelligente, très fondée, très raisonnable, mais avec des repères terrestres. Et on sait que les choses de ce monde appartiennent au diable. Alors il va caler notre raisonnement, notre sagesse, notre intelligence par rapport à des repères qui sont diaboliques. Alors que la sagesse d'en haut, bah effectivement, elle est forcément diamétralement opposée. Alors ça va paraître en complète contradiction avec le langage du monde, avec les pratiques, les objectifs et les exigences même. Ce qui est certain, c'est que le critère de la sagesse de Dieu, c'est qu'elle communique la paix. En fait, s'il y a bien quelque chose à retenir de tout ça, c'est que sagesse de Dieu égale paix. Et ça, ça doit être pour nous un critère. C'est-à-dire que dans mes raisonnements, dans mes relations, dans tout ce que je pose, où je veux chercher de la sagesse, de l'intelligence, s'il y a une absence de paix, s'il n'y a pas la paix, si elle ne produit pas de la paix, c'est que la sagesse que je mets dans mes affaires ne vient pas de Dieu. S'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas cette sérénité, s'il n'y a pas cette onction, s'il n'y a pas ce divin qui apporte cette sérénité, c'est que cette sagesse n'est pas divine. Elle sera peut-être applaudie des hommes, elle sera peut-être cohérente par rapport à des points de vue terrestres, mais ce ne sera pas une sagesse inspirée du ciel. Commençons quelques points de réflexion. Quelle sagesse utilisons-nous dans la gestion financière? Alors évidemment, ce n'est que, il n'y a rien d'exhaustif, c'est que des points de réflexion. J'ai marqué quelques références, mais il y en a bien d'autres. Pourquoi aborder ce premier sujet? Parce que je crois que ça fait partie des sujets de la vie, tout simplement, qui occupent pas mal nos esprits, n'est-ce pas? Proverbe 23, c'est celui-ci? Ouais. Verset 4. Il est écrit « Ne tourmente pas, ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. » Est-ce que ça, c'est le langage du monde? Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Le monde vous dit diamétralement l'opposé. Travaille, et travaille plus pour gagner plus. Faut investir, faut faire ceci, et regarde, et la spéculation, et la bourse, tu vois, il faut gérer là, c'est le moment. Le monde cherche à nous tourmenter sur notre question matérielle, n'est-ce pas? Et on peut même dire que, je suis certain, le monde arrive à gagner ce combat-là. Parce que nous ne nous basons pas sur la sagesse de Dieu, mais sur la sagesse des hommes. Et t'as pensé à ta retraite? Oh, c'est comme ma retraite. Et ton assurance, t'as pensé à... Oh, c'est vrai mon assurance. Et tes enfants? Le monde nous tourmente sur la question des choses financières. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 6, voici un premier degré de sagesse. Il est écrit « Mieux vaut une main pleine avec du repos que deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. » Faut mieux que t'en aies un peu moins. Faut mieux que t'aies une main pleine et que l'autre, bah, il y a du repos. Et le mot là, le mot repos, c'est le mot de la tranquillité. C'est le mot de la paix. Plutôt que d'avoir tes deux mains pleines là, tu as ça? Mais en fait, vanité des vanités. Parce que qu'est-ce qu'on recherche au travers de cette richesse? Qu'est-ce qu'on recherche en réalité? On cherche un confort, on recherche une paix en finalité. Ceux qui cherchent à avoir beaucoup d'argent cherchent à être tranquillisés par rapport à l'avenir. Mais vous avez vu le cercle vicieux? C'est que ceux qui en ont déjà, ils se préoccupent de ce qu'ils ont. J'ai connu. Alors on peut être riche et avoir l'esprit très paisible, on peut être très pauvre et avoir l'esprit préoccupé, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, il y a une autre prière, et je crois que c'est en Proverbe, chapitre 30, verset 8, où cette prière-là, c'est « Ni pauvreté, ni richesse, Seigneur. » Parce qu'on n'est pas plus spirituel parce qu'on est pauvre. Et j'espère que vous avez au moins 3000 euros par mois chacun, j'espère pour vous. Mais on peut être aussi heureux sans. Mais même si vous avez 3000 euros par mois, c'est pas pour ça que votre esprit sera serein. Et c'est ça le piège du diable. Pour nous, il n'est pas question de savoir si on a, si on n'a pas, si on est riche, si on n'est pas riche. L'essentiel, c'est de savoir quelle sagesse est-ce que j'ai par rapport à cela. L'essentiel, c'est pas ce que l'on a. De toute manière, Jésus l'a dit, nos biens matériels sont des richesses injustes. Donc on sera toujours dans une relation d'injustice avec les choses matérielles. Donc de toute manière, c'est pas là-dessus qu'on doit se caler, se dire c'est bien, c'est pas bien. On doit subir les choses matérielles. On les subit. Mais moi, en tant qu'individu, quelle relation, quelle sagesse, quelle intelligence, quel rapport est-ce que je veux avoir vis-à-vis de ces choses matérielles ? La parole de Dieu nous dit, il vaut mieux que tu aies une main pleine et que dans l'autre dimension de ta vie, tu aies du repos, tu aies la paix, plutôt que de chercher à avoir un peu plus et à perdre cette quiétude, à perdre cette sagesse, à perdre ce repos intérieur. Il n'y a pas de sagesse à se tourmenter. Il n'y a pas de sagesse à s'inquiéter. D'ailleurs, c'est Jésus qui a dit, qui rajoute une longueur à sa vie avec ses soucis ? Et ça, c'est même pernicieux. Parce qu'on est en train de réaliser que la sagesse amène la paix. Et le monde va vous dire, mais attends, tu réfléchis même pas à la vie. Et on est presque culpabilisé de ne pas s'inquiéter. Parce que si on ne s'inquiète pas, c'est qu'on est... On n'est pas en face, quoi. On n'est pas dans la réalité. Mais ça, c'est la sagesse terrestre qui nous invite à nous tourmenter, à nous inquiéter, à nous torturer même. C'est récemment... Une sœur qui me dit de donner témoignage de quelqu'un qui venait de se suicider. Et quand je lui dis, mais pour quelle raison? Alors, je ne savais pas trop, mais en tout cas, ce qu'elle sait, c'est qu'elle avait des problèmes de sous. Quand ça nous amène à la mort, c'est terrible. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu en Proverbe 8, non? Celui qui me haït, celui qui ne veut pas ma sagesse, aime la mort. Et c'est là qu'on réalise que la parole de Dieu ne dit pas, n'emploie pas des mots comme ça à la légère. Quand on ne recherche pas la sagesse, on est en train de nous donner nous-mêmes la mort. Mais la sagesse, elle doit nous communiquer la paix. Dans la gestion financière, nous devons être en paix. Nous ne nous préoccupons pas. Nous ne nous bagarrons pas pour des sous, je vous en supplie. Nous ne nous bagarrons pas pour une voiture, pour un avenir. Le Seigneur, c'est celui qui pourvoit. C'est lui qui l'a dit. Ne vous inquiétez de rien. Vous voulez bien plus que des oiseaux, n'est-ce pas? Alors pourquoi vous souciez? Et d'ailleurs, cette tracasserie est preuve d'un manque de foi quelque part si on va plus loin dans le raisonnement. Car la sagesse de Dieu est une folie. Et toi, ta retraite, hein? Qui va te l'assurer? Oh mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Oh là 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 là, n'importe quoi. Alors toi, t'es complètement... Alors on le dit pas comme ça. Mais dans notre cœur, ça devrait être comme ça. Oui. Quelle sagesse est-ce que nous avons dans la gestion de notre temps? Vous courez? Et vous avez pu répondre, oh, on manque de sagesse, on dit oui, on manque de sagesse, on dit non. Mais oui, vous courez. Il y a même des gens, j'arrive pas à les rendre visite, tellement ils sont, ah ben, je sais pas. Bien sûr. Et c'est le monde qui essaie de nous mettre ce rythme-là, n'est-ce pas? Moi, j'arrive pas à comprendre. On a des voitures, on a des fours micro-ondes, on a des phares passés super, on a plein de trucs pour nous faciliter la vie, et on a l'impression qu'on a de moins en moins de temps. Donc, il y a un truc qui va pas. Il y a une manière de faire, il y a une sagesse, il y a une logique, il y a une intelligence qui colle pas. Nos aînés, ils partaient travailler en vélo ou à moto, ils faisaient des heures à pagaille, ils construisaient tout eux-mêmes, ils n'avaient pas le four micro-ondes. Et ils avaient le temps de faire d'autres choses et ils étaient plus souvent à la réunion et d'autres choses pour les choses essentielles et spirituelles. Il y a un truc qui ne va pas. Comment ça se fait? Quelle sagesse est-ce que l'on utilise dans la gestion de notre temps? Oui, nous courons sans cesse. Mais quelque part, peut-être qu'on est aussi un peu responsable de ça. Peut-être que quelque part, on a accepté ce style de vie. On a accepté de se laisser déborder, on a accepté de se laisser tirer, on a accepté de nous imposer un rythme. Acceptons peut-être de nous poser. Pourquoi j'ai mis Exode chapitre 20, verset 9? c'est la référence du quatrième commandement. Le quatrième commandement, c'est celui qui est relatif au sabbat. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e là, ni toi, ni tes enfants, ni ton serviteur, vous arrêtez, vous vous posez. C'est dur de s'arrêter une journée à rien faire. Hein. Mais c'est la sagesse divine. Parce que ce jour-là, dit Dieu, il est fait pour le repos, il est sanctifié, il est réservé. C'est un temps mis à part. L'histoire de notre société qui veut amener le travail le dimanche, ce n'est pas une question de travail ou pas travail. C'est une question, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on ne s'arrête pas? C'est ça la réelle question de fond. Est-ce qu'on veut une société qui est toujours là en mouvement, mouvement, mouvement? Ou est-ce qu'on accepte un moment, dire stop? Le business, on arrête. Les affaires, on arrête. Le loisir, on arrête. On fait une pause et on considère là où on en est. Parce que si on ne s'arrête jamais, c'est comme ça qu'il y a des accidents. Parce qu'on ne voit même plus les dangers, on ne prend plus le temps de réfléchir. Et c'est ça la sagesse de Dieu. Dans les fondements de la loi, le Seigneur dit, peuple de Dieu, ayez cette sagesse. Apprenez à vous arrêter, à faire pause, à considérer les choses, à les examiner, à prier, à chercher ma face. C'est pas 2 heures ou 3 heures le dimanche matin on fait ça. En plus, pendant le temps que vous consacrez le dimanche matin, il y en a un qui n'arrête pas de vous parler, donc vous ne pouvez pas réfléchir. Je parlais de moi. Hein. Mais savoir s'arrêter, être seul avec le Seigneur, à réfléchir aux choses selon la sagesse divine. Il faut savoir s'arrêter. Si on ne sait pas s'arrêter, c'est que là aussi, est-ce que ce n'est pas un manque de foi ? Quelque part, chaque fois qu'on est en train de faire quelque chose, c'est qu'on est en train de croire que si on ne le fait pas, ça ne va pas marcher. Si on ne le fait pas, comment ça va se passer ? On est indispensable, on est nécessaire. Et si je ne le fais pas, qui va le faire ? Eh bien, c'est apprendre que les choses qu'on fait, c'est peut-être pas si indispensable que ça. Et peut-être que le Seigneur pourrait peut-être faire mieux que nous d'ailleurs même. Est-ce qu'on est forcément obligé de faire ? Est-ce qu'on est obligé toujours dans l'activisme ? Selon la sagesse de cette terre, oui. Selon la sagesse du ciel, non. Vous vous rendez compte ? Tout un peuple. Le peuple d'Israël. Tout un peuple qui pendant une journée ne fait rien du tout. Bizarre, hein ? Personne ne faisait rien ce jour-là. Fallait préparer la nourriture la veille. Il n'y avait pas les servants de « Ah bah oui, mais nous on se repose, mais c'est les autres qui vont... » Non ! Tout un peuple à l'arrêt, tout un peuple au silence. Les chevaux, les ânes, tout était rangé. Il n'y avait pas de bruit, de brouhaha. C'était une journée où tout s'arrêtait. Nous avons besoin de cette sagesse dans notre... Nous avons besoin d'apprendre à faire des temps d'arrêt dans nos vies. Régulièrement, c'était pas une fois par an qu'il le faisait, c'était une fois par semaine. Ça vient vite, hein, le dimanche, hein. Oh, bon, on pourrait faire une fois par mois, ça suffit. Non. Dieu nous dit une fois par semaine. Ce n'est pas forcément une pratique en tant que telle qui est importante, mais c'est la sagesse qui est derrière ces choses-là. On peut le faire tous les jours, de savoir s'arrêter pendant une heure. Ah ! Vous imaginez pendant une heure, pendant la journée, vous faire rien du tout. Alors il y a ceux qui l'ont déjà fait et qui ont cette habitude de la piété, qui savent mettre du temps à part pour chercher la fin, pour méditer, pour réfléchir. Et ces hommes et ces femmes sont bénis. Ils ont la sagesse de Dieu dans leur cœur. Ils ont la vie. Ils ont trouvé des réponses. Comme Claude le disait dans sa prière, c'est pas qu'on a, on a toujours les problèmes, mais on a aussi les réponses. Mais il y a cette heure de silence, il y a cette heure d'arrêt, il y a ce moment qu'on consacre au Seigneur. Que Dieu nous apprenne à lui révéler notre vraie confiance dans ces choses-là. Quelle sagesse avons-nous ou recherchons-nous dans nos relations ? Jacques chapitre 3 verset 17. Il est écrit que la sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Quelle sagesse est-ce que j'entretiens ? Quelle sagesse est-ce que je cherche avec mon prochain? Est-ce que je cherche ça? Est-ce que je cherche à ce que ma relation avec n'importe qui soit pacifiste, conciliant, pleine de miséricorde? Est-ce que dans ma relation, bon, je suis comme ça, il n'a qu'à me prendre tel que je suis? Ou est-ce que je veille à dire, non Seigneur, dans ma relation, c'est pas seulement le fruit de l'esprit que je veux, mais c'est même être imprégné d'une sagesse qui communique quelque chose. Vous voyez la différence? Rechercher cette sagesse, rechercher à être conciliant, rechercher à être un modérateur, rechercher à être quelqu'un de pacifiste, rechercher à retirer de notre vie toute miette d'hypocrisie. Ça, c'est la sagesse d'en haut. La sagesse d'ici-bas nous appelle à séduire, à tromper, à flatter, n'est-ce pas? À paraître. Mais ça n'a rien à voir avec la sagesse d'en haut. Quelle relation? Quelle relation est-ce que nous avons également avec nos épouses? Je parle aux hommes. 1 Pierre chapitre 3 verset 7, vous lirez à la maison, je ne l'ai pas marqué. C'est un oubli, c'est pas volontairement. Hein. Mais il nous est demandé à nous, Marie, d'user de sagesse dans nos rapports avec nos épouses, considérant qu'elles sont plus fragiles, plus sensibles. C'est le sens d'un sexe faible. C'est un peu maladroit comme formule, mais un être plus fragile, plus sensible dans nos relations à la maison. Le machisme, c'est pas biblique. Hein. C'est pas biblique, le machisme. Nous devons utiliser cette sagesse dans nos relations avec nos épouses. Cet esprit de conciliation, de compréhension. Je ne vais pas trop en dire, ma femme est là. Donc. Proverbe chapitre 15, verset 1er, nous dit que une réponse calme, une réponse douce, calme la fureur. Alors qu'une parole dure, oui, elle excite la colère. C'est tellement facile de sortir une parole dure, n'est-ce pas? Tellement facile, c'est tellement spontané. Parce que quand on ne vit notre vie que sur nos acquis, que sur ce qu'on a reçu du Seigneur, et qu'on dit, bon voilà, moi j'ai reçu ça du Seigneur, et puis je suis comme ça, et qu'on ne recherche pas la sagesse, alors ces paroles vont sortir tellement, tellement facilement. Comme des flèches, n'est-ce pas? Comme des flèches. Surtout avec ceux qui sont plus proches d'ailleurs. Reconnaissons que derrière nos impatiences, reconnaissons que derrière nos irritations, que derrière nos agacements, ce n'est pas la sagesse d'en haut qui se manifeste. Reconnaissons-le tout simplement. Et on peut même dire merci Seigneur, parce que ça nous permet de dire « Oh, oh, là je suis comme ça, j'ai besoin de la sagesse, j'ai besoin de rechercher la sagesse, j'ai besoin là de me ressaisir et de réaliser que je suis en train de vivre sur un acquis, je suis en train de vivre selon ma perception personnelle, je suis en train de vivre sur mes ressentis personnels, sur mes émotions, mais c'est pas ça, je veux bâtir ma relation sur une sagesse. Seigneur, donne-moi cette sagesse. » Nos échecs ne sont pas des fatalités, nos échecs sont des avertissements. Une manière de nous interpeller, de nous ressaisir. Que le Seigneur nous accorde cette recherche de sagesse dans nos relations. La sagesse dans nos raisonnements. Peut-être que vous connaissez ce genre de personnes. Récemment, j'en ai rencontré deux qui étaient comme des... Non, trois, pardonnez-moi, avec hier. Des gens, ils vous parlent et ça paraît plein de sagesse, hein. Ah, je dirais, ils ont l'art de la formule, l'art de dire les choses. Hein. Ils vous emballent ça, là. D'ailleurs, quand ils vous parlent, on n'a pas grand-chose à dire si c'est... ouais. À part que quand on connaît la personne, on a envie de dire, mais t'es pas crédible, quoi. C'est bien dit, t'as la phrase, t'as l'attitude, t'as l'assurance. Ah, il y a du bagou, comme on dit. Mais quand on connaît la personne... Il n'y a pas le caractère de la sagesse, il n'y a pas le fruit de la sagesse. Proverbe chapitre 18, verset 2, la Bible en parle de ces gens-là. Il dit que ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, mais c'est la manifestation de ses pensées. Ce n'est pas à l'intelligence que prend plaisir l'insensé, mais il prend plaisir à la manifestation de ses pensées. Une autre traduction dit il aime faire étalage de ses opinions. Et il y en a des gens comme ça. Vous les écoutez, ils paraissent tellement sages, ils comprennent, ils savent, et ceci, et cela. Et on peut que dire oui, c'est vrai. Mais la vraie sagesse, elle est définie en Jacques chapitre 3, verset 18, en nous parlant de bons fruits. Le fruit de la justice se met dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Quelqu'un de sage, ce n'est pas quelqu'un qui a du bagou. Quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui vit dans la justice, dans la vérité, dans la droiture. C'est au bon fruit, c'est au bon résultat, c'est aux bonnes œuvres que l'on voit quelqu'un de sage. Ce n'est pas au long discours, ce n'est pas à sa manière, ce n'est pas à sa manière même persuasive de dire les choses. Au fruit, aux résultats, aux actes, aux attitudes, aux réactions. C'est à cela que l'on voit quelqu'un qui a de la sagesse. Tout le monde sait faire de beaux discours, honnêtement, hein. Tout le monde. Mais la vraie sagesse, ça se voit au fruit. Et s'il y a la paix, est-ce que cette personne communique la paix? Oui, alors, tu es sur le chemin de la sagesse. Il est facile de faire des messages, des discours qui parlent de la paix. Mais sommes-nous des ouvriers de la paix? Facile de faire des discours sur la justice, mais sommes-nous des hommes justes, des femmes justes? L'honnêteté, la vérité, la grâce, le pardon, c'est tout ça. La sagesse ne s'évalue pas au nombre de mots, mais au nombre de bonnes œuvres. La sagesse est même capable, et Jésus nous l'a manifesté plus d'une fois, de garder le silence. De temps en temps, il y a plus de sagesse derrière un silence que derrière un grand discours. Que nous ne nous laissions pas tromper. On s'arrêtera sur ce dernier point pour ce matin, nous verrons la suite la semaine prochaine. Mais la sagesse, elle se voit. Alors elle se voit, on aurait pu dire, bah oui, elle se voit dans les œuvres. Elle se vérifie, elle se constate, elle s'évalue, effectivement. Mais le proverbe Ecclésiaste, chapitre 8, verset 1, dit un verset qui m'a interpellé fortement une période de ma vie. Il est écrit « Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses ?»« La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. » C'est beau ça, hein ?« La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité, la dureté de sa face est changée. » Il n'y a pas de... Et, ah oui, en la Bible français courant, il est traduit « La sagesse d'un être éclaire son visage et adoucit ses traits. » Mais je crois qu'on avait bien compris le sens. La sagesse communique la joie. La sagesse communique quelque chose de paisible. Il n'y a pas forcément plus de sagesse derrière un visage dur. Derrière une attitude renfrognée, il n'y a pas de sagesse derrière quelqu'un qui est toujours là comme ténébreux, sombre, réfléchi. C'est faux. Au contraire, la vraie sagesse, elle est pure. La vraie sagesse, elle est simple. La vraie sagesse, elle fait rayonner le visage, elle apaise. Si la vraie sagesse apporte la paix vers l'extérieur, elle apporte la paix à l'intérieur. Et cette paix, ça se voit. Ne croyons pas que derrière des visages durs, sévères, austères, il y a plus de sagesse. C'est faux. C'est faux. Les soucis, c'est pas sage, hein. Les soucis, c'est le diable qui les sème. Les préoccupations, les fardeaux, ça vient pas du ciel. Ça vient de la terre. Vous connaissez Jésus?
Amen.
Il nous est dit en Ésaïe, chapitre 11, verset 2, que l'Esprit de l'Éternel repose sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, de force, etc. Et il nous a encore parlé de Jésus en Hébreux chapitre 11, verset 9, Hébreux chapitre 1, verset 9, pardonnez-moi, où il est écrit « Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Donc il est bien dit que Jésus a cet esprit de sagesse, il est la sagesse même. Mais il y a un autre témoignage qui dit de lui qu'il a une onction de joie sur sa tête, une huile de joie. Il y a une autre traduction qui dit il a sur sa tête une huile de fête. Oh non, non, attends, la fête, c'est superficiel. Bien sûr que la fête terrestre, elle est superficielle, mais la joie du Seigneur n'est pas superficielle. nous devons rechercher la joie. Paul le dit régulièrement, non ? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il n'y a pas de sagesse dans l'austérité. Il n'y a pas de sagesse dans les mines refrognées. Il n'y a pas de sagesse. Par contre, il y a de la sagesse dans la joie. Il y a de la sagesse dans la simplicité. Il y a de la sagesse dans un visage frais. Il y a de la sagesse dans un cœur qui à la fête, non pas à l'excitation, non pas à la superficialité, mais à la joie, à une vraie joie. Ne nous laissons pas tromper. Les vrais sages sont des gens heureux. Les vrais sages sont des gens qui sont capables de rire, et de rire de bon cœur, de vrai cœur. La sagesse ne signifie pas tristesse, mais la sagesse veut dire au contraire esprit paisible, tranquille, joyeux, qui communique la paix. Amen.